Donc on reçoit par le biais de merci camarade Abfab, par son ce biais Abfabien, monsieur Tristan Edern-Vaquette.
Merci. Quel accueil.
Bonjour, merci d'être là. Voilà.
De rien, parce c'est vrai que je suis une bonté infinie, il faut aussi y aller.
Parce que, à part les émissions de télé, tu peux faire quelques petites émissions radio indépendantes.
Alternatives,
par exemple. C'est vrai, je ne peux pas, voilà, je ne peux pas être tous les jours sur Europe 1.
Donc bonjour, c'est pas par hasard non plus, il y a une actualité par rapport à ton art que tu fais.
C'est un grand bobo, oui, effectivement il y a une actualité, bah, t'as raison, on va la dire tout de suite, comme ça après je me casse. Il y a un nouveau CD qui sort qui s'appelle Crevez tous, premier massacre, et puis il y a le spectacle Crevez tous, premier massacre aussi, hein, c'est l'adaptation du CD qui se joue à la Miroiterie, 88 rue de Ménilmontant, dans le 20e, tous les jours de du mardi au samedi de la semaine prochaine, à 20h30 précise, et je précise que c'est à précise, parce qu'il y a en première partie Blair et le peuple de gauche, et que c'est très bien, et que si vous venez en retard, vous raterez Blair et le peuple de gauche.
Blair comme...
Comme celui qui faisait Pomme de Terre dans le temps, voilà.
Ouais.
Sauf que maintenant son groupe s'appelle le peuple de gauche, donc c'est devenu plus long son nom, mais c'était monsieur qui faisait Pomme de Terre chez Bondage il y a 10 ou 15 ans, je ne sais plus, quand on était jeune.
Quoi. D'accord, c'était pas la référence à laquelle je pensais, mais...
Ah non, tu pensais au groupe anglais ou un truc comme ça, toi, non?
Oui,
ah non, Tony Blair, peut-être.
Voilà.
Non, comme Blair lui-même, non, comme lui-même qui est une star.
On va introduire en musique et on va parler un petit peu par la suite.
Un petit peu.
Non, on a 2 heures, on a jusqu'à 20 heures, donc ah c'est oui. Bien d'alterner avec des passages musicaux, parce que de trop parler, ça peut saouler.
Surtout quand c'est moi qui parle.
En fait, oui.
Non, du tout.
Au revoir.
Oui,
ça peut. C'est Vaquette qui va prendre. Là, c'est bon.
Donc, en présentant ce que Tristan Edern-Vaquette adore, c'est-à-dire du punk actuel. Avec des groupes tirés de compilation, une compilation de Mighty Worms. Mighty Worms, c'est une émission de radio je vous le dirai.
Non, mais ris pas avec ça, je suis sûr qu'il y a aussi des groupes qui font de la bourrée actuelle. Hein, ça, c'est
bien sûr, il y en a.
Hein, ça,
mais toute évolution musicale.
On n'est pas obligé de vivre avec son temps, tu as raison.
Voilà. Donc on est toujours sur Constroy jusqu'à 20h sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 MHz avec Tristan Edern-Vaquette. C'est son nom, c'est Tristan Edern, c'est le prénom, et Vaquette, c'est le nom. Voilà.
La raison de préciser, j'y tiens. Donc il y a un tiret entre Tristan et Edern, parce que certains le mettent entre Edern et Vaquette, ou ne mettent pas de tiret, c'est une insulte à ma grande noblesse.
Bah, un petit peu, oui.
Mais ça vient d'où alors ça, Tristan Edern-Vaquette? Parce qu'en fait, moi j'ai entendu la même chose dans un sketch de Pierre Desproges.
Exactement, bah, ça vient de ça. Ça vient que j'avais. Il y a très 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 longtemps, mais je dis par mon âge, parce qu'à mon âge ça devient blessant, il y a très longtemps, je faisais des pauvres groupes punk à l'époque du punk français, à l'époque où ça avait encore un sens, c'était nouveau, ou des étions jeunes, alors je faisais, fallait trouver un nom de groupe débile, donc j'avais 17 ans et il y avait des proches que j'aimais bien, donc il arrêtait pas de se foutre de la gueule de Jean Edern-Allier en l'appelant Jean Edern-Vaquette de Gribeauval. Bon, c'était le truc récurrent, Tristan c'était mon vrai prénom, je voulais le garder parce que j'aimais bien mon prénom, donc j'ai gardé Tristan Edern-Vaquette de Gribeauval, et puis depuis c'est devenu plus court puisque c'est devenu l'indispensable Tristan Edern-Vaquette, docteur à sciences, vicomte de Gribeauval, prince du bon goût.
Mmh. Ce qui effectivement sur une carte de visite permet d'aller au plus proche, au direct.
Voilà, puis depuis en plus j'en ai rajouté plein de choses, j'ai rajouté Pape du Hardly Listening, Mr. Trash.
Bah c'est bien, moi comme quoi. Ça, hop, tu vois, quand t'abordes une gonzesse, hop, tu dis déjà qui tu t'appelles, hop, déjà elle est saoulée, elle tombe par l'air direct, paf.
Pour ton ouais. Bon, sinon je la tape et je la viole, moi tu sais, je n'ai aucun scrupule.
Bah, oui, ça peut arriver.
C'est la méthode alternative.
Il y en a qui tapent sans violer, hein, mais ça arrive.
Ah bah alors, c'est vraiment, c'est joie de l'utile sans l'agréable, c'est une faute de goût, monsieur.
Donc, on va remettre un petit peu dans son contexte. Depuis 1969, il y a pas mal de choses qui sont passées. J'imagine qu'il y a une petite période entre 69 et 80 où on s'en fout un peu. Donc, t'as commencé.
Tu veux que je te raconte?
Non.
Petit alors, je suis né dans une HLM de Nogent-sur-Marne. C'était triste et beau à la fois, l'enfance de misère que j'ai connue. Je suis rentré à l'école à 5 ans et j'ai pleuré car j'étais un enfant inadapté. Là, on m'a envoyé chez le
La dernière fois, Mario avait réussi à lui faire fermer sa gueule. Hein.
Ouais, c'est parce que
c'était un artifice technique, j'ai très bien suivi ça. Je n'étais pas là, là, ce sera beaucoup plus difficile.
Donc,
contre toi, ouais, non, mais vous n'êtes pas assez nombreux.
Comment ça s'est fait un peu ta rentrée dans le milieu milieu artistique, entre guillemets, on va mettre des guillemets, mais
pour aller simple, moi je suis rentré en école d'ingénieur à 17 ans. À l'époque, c'était vraiment pleine époque du punk français, donc tout le monde faisait des groupes, on faisait tout. Enfin, tous, entre guillemets, j'imagine qu'on n'était pas majoritaire, mais le fait de faire un groupe, le loisir tendance, c'était d'aller répéter avec son groupe le week-end, et puis de faire les concerts pourris punk de l'époque. C'était à l'époque vraiment où il y avait toute une effervescence de ça et que c'était naturel. Voilà, moi j'ai toujours été baigné par la chanson française, donc j'aimais Brel, Brassens, tout ça. Et puis après, quand j'ai eu 12-13 ans, j'ai découvert Renaud, le Renaud du début, qui était bien. Et puis quand je suis arrivé à justement 16-17 ans, on m'a dit la nouvelle chanson française, c'est Jacques Auronnier, c'est des choses comme ça, horrible quoi, des choses qu'on... Et j'ai fait la chanson française est morte, c'est horrible. Puis là-dessus, j'ai découvert les Berus, j'ai découvert Vampa, j'ai découvert Gogol Premier évidemment, Ludwig von. Et j'ai fait, voilà, juste la chanson française, pour moi, elle était là, les textes intéressants sont là. Alors on appelle ça du rock. Bon, puis je me suis engouffré là-dedans, c'était facile, tout le monde avait envie de faire un groupe, donc on faisait un groupe. Et puis voilà, après ça suit son chemin. Après, il y a un moment où t'as envie d'en faire quelque chose de sérieux et que tu en veux en mettre une ambition. Mais au début, c'était histoire d'écrire des conneries. Donc je faisais des espèces de trucs du sous-gogol.
Mais tu faisais un groupe, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres gens avec toi qui étaient capables de subir.
Incroyable.
Ouais, j'en suis stupéfait.
Incroyable, mais j'ai arrêté quand même.
Rapidement, je veux dire.
Relativement, assez lentement, j'ai fait plein de groupes. Mais quand j'ai voulu faire ça sérieusement, je me suis dit, bon, tant qu'il va y avoir de l'argent, je vais quand même pas leur en donner. Donc je les ai virés. Mais non, ça s'est pas fait comme ça. Plus sérieusement, ça s'est fait que des gens capables de suivre mon ambition merveilleuse et mon envie de travail, il y en avait pas. Donc voilà quoi. Et puis de toute façon, après, il y a une réalité toute bête qui est.
Il y a des traces du proto-vaquette. Ça existe ça ?
Ouais, j'en ai. Moi, je sais pas si je l'ai dit. Mais peut-être un jour j'exhumerai ça. Il y a des choses. Mais c'est des choses très honteuses. Il y a des choses bien aussi. Des fois, j'écoute. Il y a des choses pas mal. Genre, j'avais écrit une chanson sur le service militaire à l'époque où ça me traumatisait. Et c'était, je crois, 7 ou 8 couplets. Et en fait, le mec, à chaque fois, il se fait, il rencontre, c'est tout. Donc, comment il rencontre un adjudant. Enfin, je me souviens plus. Puis ça monte de grade jusqu'à elle finit par le président de la République. Donc, un lieutenant. Un colonel, un général, et à chaque fois il leur dit j'ai pas envie de faire le même truc et je t'emmerde. Et à chaque fois il se retrouve au trou, donc il passe toute la chanson, il se retrouve au trou comme ça. Et la musique c'était juste un roulement de batterie, pam, 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 pam. Comme ça, voilà, c'était amusant.
Quel génie!
De quoi? Ah oui, il y a toujours eu chez Vaquette ce sens du génie, il faut le dire. Voilà. Donc ça ressemblait à ça, Vaquette, quand j'ai commencé. Et donc pratiquement. Y a un autre problème qui est peut-être tabou dans cette forme de pensée dans laquelle nous sommes, c'est le poignon. C'est aussi que quand tu joues avec un groupe à 4 dans le milieu alternatif, déjà pour essayer de vivre mal de ton boulot tout seul, c'est très très dur. Mais si tu divises par 4, t'oublies quoi, tu fais autre chose dans la vie. Quand tu te sors un super concert où t'as 300 euros, t'es content, tu peux commencer à penser à pouvoir vivre si t'arrives à en faire 4 par mois tout seul. Si t'es 4, t'oublies quoi. Si t'es
4, effectivement,
et puis tu roules, tu le vois pas en voiture. Enfin, un camion, tu viens pas avec tes jouets, tu viens avec une sono, bon, t'es dead, donc ça devient un loisir. Et moi, j'ai toujours jamais voulu en faire un loisir, j'ai voulu en faire une activité à plein temps, donc pas pour
devenir riche. Voilà la différence aussi de forme.
C'est marrant ça comme façon. Non, il est cash, hein. C'est cash direct, hein, parce que d'habitude, c'est le.
Ah bah moi, j'ai pas politiquement
correct. Toi qui es grand fan de Didier Vampas, c'est la logique inverse de ce qu'il préconise, lui, par exemple. Ouais. Qui a toujours gardé ses Vampas comme étant le loisir, et lui n'a jamais voulu quitter son boulot à SNCF, mais justement pour ne pas.
Moi j'aimerais
faire
bien
dépendre
avoir Vampas en face de moi, parce que moi Vampas c'est un type qui artistiquement j'adore, son discours autour de ça je le trouve bidon. Maintenant moi je le respecte parce qu'il met en cohérence ses actes et ses paroles, ce qui est la seule chose qu'on peut demander à un homme.
Il a une origine, quand même, son discours, il dit bien qu'il a vu tous ses potes flipper à chaque fois qu'il devait sortir un album, et il a vu tous ceux qui ont abandonné leur boulot à chaque sortie d'album. Flipper en se disant si ça marche pas, c'est comme si je me faisais virer en fait.
Il a entièrement raison, c'est pour ça que je respecte le bonhomme, je suis pas d'accord avec lui, je le respecte, mais en même temps, comme je te disais, moi je tourne tout seul. Lui tourne avec un groupe de rock. Donc la réalité aussi de la thune, elle est pas du tout la même chose. Moi je tournerai en groupe de rock à 4. Ma réalité de vouloir faire comme ça avec ce que je fais dans le radical, c'est pas possible. Soit t'es obligé de sortir du radical et être dans la vraie récup, bon machin. Admettons, pourquoi pas. Mais soit dans ce que je fais, il n'y a pas d'argent pour deux. Donc c'est tout, il y a de l'argent pour moi, j'essaie de m'en sortir et de le faire comme ça. Après, il y a aussi une autre différence, c'est que moi je travaille beaucoup, je produis lentement, je fais effectivement des chansons de 35 minutes, j'écris des bouquins. Didier Vampas, je pense que le temps qu'il écrive un album, moi j'ai écrit un demi-couplet de la première chanson du dernier album, quoi. Donc il y a aussi, et c'est pas contre lui, hein. C'est un rapport à son travail. Je veux dire que lui il est capable, et puis il est peut-être beaucoup moins social et bizarre que moi. Lui il arrive peut-être à aller tous les matins à la RATP à discuter avec ses collègues. Moi je les aurais tués. Donc à un moment, Moi, il y a un truc qui m'avait beaucoup touché il y a très longtemps, c'était un type du Splendide qui disait ça. Cette phrase-là, je m'en souviendrai toujours parce que la formulation fait un peu ridicule, militante, mais elle est très bonne. Il a dit « On a très tôt compris le concept bourgeois de la porte de sortie ». Et moi, bien avant d'avoir écouté cette interview-là, j'avais pas mis ces mots-là, mais j'ai très bien compris le concept bourgeois de la porte de sortie. C'est-à-dire que si à un moment, tu te retrouves dans la vase jusqu'au cou, que derrière toi, il y a une porte fermée, que autour de toi, il y a des rats, qu'il n'y a pas de lumière, et que peut-être il y a une porte au bout, t'avances. Si tu sais que derrière, il y a une super porte, et que tu peux prendre une douche, et puis dans un certain confort, tu fais 10 mètres histoire de faire le rebelle, puis tu retournes en arrière et tu rentres par la porte. Donc moi, avant, j'étais physicien, j'aurais pu faire une carrière de mec très bien payé avec du boulot, un boulot fabuleux de rêve. Si j'avais eu ça, au début, quand j'imaginais que j'étais un pur rebelle, tout ça, j'aurais continué 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais j'aurais arrêté. C'est aujourd'hui, j'ai pas de porte de sortie. Donc ça, je dis pas que je tiens que grâce à ça, mais il y a aussi que je me suis fabriqué, que j'ai coupé les ponts derrière moi pour être sûr que j'avance devant. Voilà.
Enfin, le discours inverse, on pourrait se tenir aussi. Hein. Mais ton discours est radical, mais le discours inverse pourrait éventuellement se tenir aussi en disant à partir du moment où j'ai un boulot, un truc comme ça, et où je sais que je risque rien dans la radicalité, dans la création artistique, je peux y aller à fond, à donf, etc., même si je me fais jeter des pierres.
Mais après, c'est une question, je crois que fondamentalement, c'est d'abord une question de rapport effectivement à l'autre et au social. Moi, je suis un vrai type. Bon, je me suis soigné un peu, mais je suis un vrai type qui a pas des problèmes sociaux, ça va, je suis normal ici, mais tu me mets dans un vrai boulot, ça va très mal se passer, j'accepte pas les normes normales, j'accepte pas la soumission à l'autorité, mais c'est pas un grand mot pour frimer, je ne supporte pas, c'est-à-dire un patron ou un chef ou n'importe quoi, un directeur d'académie qui me dirait faut faire vos cours comme ça, je fais tu vas te faire foutre, t'es un abruti, tu vois, je suis vaquette, tu comprends pas mes cours, casse-toi. Je supporterai pas. Et il y a très peu de boulot dans le monde où on peut s'intégrer. Donc moi, si demain je me reconvertis, je vais me reconvertir en ouvrant un resto parce que moi je serai mon propre patron. Il y a personne qui viendra me casser les couilles.
Faudra que tu donnes des ordres peut-être à tes.
À choisir, je préfère
ordonner qu'en recevoir.
Mais je préfère ordonner qu'en recevoir. Voilà. Parce qu'en recevoir, ça m'est insupportable. M'en donner, ça n'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Mais de toute façon, dans mon boulot, j'ai l'habitude de travailler avec des gens qui travaillent pour moi. Et je pense qu'on peut faire un travail collectif sans être dans la soumission et les autres.
Après,
si je me trouve avec un branleur qu'on n'a rien à foutre, qui pense la seule chose, j'encule mon patron parce que dès qu'il va pas me regarder, je vais le virer tout de suite parce que je vais dire on va pas s'entendre. Tu vois. Donc toi, il y a des patrons cons, il t'en a plein. Tu vas en trouver un autre boulot. Mais chez moi, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui est dans le même truc, quoi, qui comprend que. Et que ça va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je vais pas te demander de faire des heures de présence si j'ai pas besoin de toi pour bosser, tu vois. Profite, casse-toi. Mais là maintenant on a besoin de bosser 2 heures de plus, tu me fais pas chier à me dire ah ben c'est les horaires, ça je suis syndiqué, va te faire foutre quoi. Bon. Non mais voilà, moi j'ai cette mentalité. Pour moi c'est ça être libertaire. Pour plein d'autres m'expliqueront que non, mais à mon avis c'est des gens qui te feraient mieux d'aller à la CGT qu'à la CNT. Mais bon, c'était un message personnel. Bien. Et donc qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oui, et donc le chemin, ce que t'as dit est très intéressant. C'est vrai que ça peut t'apporter la liberté. Donc il y a la première chose, est-ce que t'es capable de supporter une vie sociale? Et puis après, comment tu as besoin de t'investir en temps et en énergie dans ton travail? Moi, je ne conçois pas de faire tomber ma coupe de cheveux, d'être schizophrène. Voilà. J'aurais l'impression d'abîmer qui je suis et j'aurais l'impression de perdre ce qui me fait écrire. Moi, j'ai, peut-être par snobisme et peut-être parce que j'ai eu la chance, ça, j'ai pas beaucoup de certitudes là-dessus. Je ne suis pas un dogmatique en grand chose, mais là-dessus encore moins qu'autre chose. Moi, j'ai le sentiment déjà de ne pas avoir assez le temps. J'ai mis 5 ans pour sortir un album. J'ai bossé, j'ai cherché un son nouveau, j'ai cherché un truc à moi. Si en plus j'avais dû avoir un boulot à côté, une femme, des gosses, je veux dire, c'était illusoire. Soit j'aurais sorti un truc qui n'était pas à la hauteur de mes ambitions, soit j'aurais sorti un truc dans 72 ans, ce qui n'avait aucun sens. Quoi. Mais après, voilà, Vampas y arrive. Là où on est d'accord avec moi, s'il y avait moi et Vampas sur ce plateau, on serait vraiment d'accord, c'est qu'on a tous les deux pas beaucoup d'estime, pour pas dire un mot plus violent, pour effectivement les intermitteux, donc le but qui est uniquement de compter leur cachet, qui veulent un certain prestige d'être artiste mais sans jamais se poser les questions artistiques, et qui finalement oublient que la fin devient le moyen, c'est-à-dire qu'à la fin, la fin c'était de produire de l'art, et le moyen c'est d'essayer de gagner de l'argent avec, et qu'à la fin, pense plus qu'au moyen qui est gagner de l'argent avec, et la production d'art s'en fout. Donc Didier Vampas, il produit de l'art pour moi, je le respecte beaucoup pour ça, et c'est la seule chose qui m'importe. Donc, bon, après, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais peut-être qu'il dirait la même chose que moi, il me dirait je suis pas d'accord, mais voilà, respect. Yo, t'as vu, je fais du rap maintenant, je dis respect.
Voilà. Donc, oui, on revient à nos moutons, à notre mouton noir.
Rouge,
pardon. Mais il y a quand même un peu de noir, hein. Faut pas déconner. C'est une expression, hein.
Oui.
Voilà. Donc on en était un peu à la biographie après un passage dans des groupes punk dont on a parlé un petit peu.
Est venu le moment où je suis devenu un professionnel de la profession.
Voilà, où tu t'es dit je peux pas bosser avec d'autres gens. vraiment dans certains dans certains cas.
Pourtant, j'avais le boulot le plus de rêve du monde. Tu vois, j'étais faire une interview pour cette radio d'ailleurs qui passera jeudi. La salle 101,
ouais, sur la salle 101.
Oui, tu connais bien puisque c'est voilà. Donc j'ai fait la salle 101, et le monsieur qui anime la salle 101, je sais pas, on a le droit de dire ce qu'il fait dans la vie,
il y a que lui que ça regarde voilà. En fait, mais
et puis c'est plutôt flatteur, voilà. Donc il est le photographe officiel du Collège de France, donc je suis retourné au Collège de France et je me suis aperçu à quel point c'était une belle vie magnifique, puisque moi j'ai eu le bonheur de travailler un peu là-bas en tant que physicien quand j'étais jeune. Et puis à un moment, je me suis dit, ça me rendra pas heureux. Je vais arriver à 40 ans en me disant, j'ai un super boulot, j'ai une super vie, et puis je m'emmerde tous les jours, ça me plaît pas. Donc je me suis dit, je vais. Puis à l'époque, j'étais très naïf. Hein, moi, j'avoue, je plaide coupable. Hein, je pensais sincèrement que je me disais, que t'es mieux que les autres, tu fais normal sup, tu les encules, t'es tout le temps génial. Donc tu vas arriver dans le show business et tu vas te faire ta place, pas mainstream, mais tu vas devenir le nouveau Coluche. J'étais toute naïve, j'avais pas compris que l'époque avait changé, j'avais pas compris que le vrai radical, on n'en veut plus, j'avais pas compris qu'aujourd'hui Dieudonné se met deux papillotes et il passe déjà pour un mec hardcore, donc quand tu vas 10 fois plus loin que lui, t'es même pas hardcore, t'es complètement, totalement ignoré, t'as la tête sous l'eau, tu n'existes pas, tu es ce qu'on appelle underground. Underground, c'est un bon mot, c'est-à-dire que les gens vont pas voir un spectacle de vaquette, ils vont faire, c'est underground, ah oui, bah, il va y rester, ça m'intéresse pas, voilà. On peut pas en parler, il fait Fréquence Paris Pluriel, non mais qui reste dans ses petites radios, c'est très bien pour lui, mais on va pas en parler sur un vrai média. Mais ça fonctionne comme ça, je dis ça en rigolant, mais ça fonctionne comme ça, la ghettoisation. Donc j'avais pas compris tout ça, donc moi je m'étais dit, tu vas faire 2-3 années, 4 années, 5 années dures, mais tu vas bosser comme un chien. Et quand t'es le meilleur, tu vas trouver ta place. Puis peu à peu, j'ai compris que il y avait pas de place et pas de chemin, et qu'on pouvait avoir un talent immense comme Coste par exemple, et se retrouver à 60 ans toujours à jouer dans des codes, dans des squats, toujours pour 3 francs 22, toujours d'être un clochard. Et c'est une histoire éternelle. Et puis peut-être d'être récupéré après sa mort et de faire plein d'argent. Parce que qu'est-ce qu'il génère comme argent, Van Gogh, quand même, proportionnellement à ce qu'il a gagné.
Mais est-ce qu'il n'y a pas d'alternative entre ce que tu dis, un milieu underground pourri, comme on peut l'entendre dans ce que tu dis, plus ou moins.
Est-ce qu'il n'y a pas d'espace, tu veux dire?
Ouais, est-ce qu'il y a une alternative entre justement ces deux extrêmes, un truc mainstream et un truc.
De moins en moins, c'est-à-dire que nous, on est d'une époque où moi j'avais le sentiment que ça existait, peut-être à tort ou à raison, mais je crois que c'était à raison, c'est-à-dire que des gens comme les Anthropos, comme les Bérus ont fait le zénith. Oui. Tu vois, aujourd'hui, j'ai le sentiment que soit tu es dans un squat pour un public très très restreint et limité, soit tu fais Benabar passe pour un mec qui chante des textes intéressants. Donc, je veux dire, Dieudonné passe pour un immense provocateur. Donc, ça veut dire. Et c'est pas contre Dieudonné que je dis ça. Je veux dire, Dieudonné, il fait du café-théâtre comme tout le monde en a fait. C'est poète-poète, ok. Mais Dieudonné, il devrait juste être considéré comme la normalité. Il est considéré comme borderline. C'est ça le problème. Et moi, j'ai le sentiment aujourd'hui que cet espace, il est restreint, quoi. Il est très restreint.
Il est restreint, mais est-ce qu'il n'existe pas un petit peu quelque part? Si on prend l'exemple de la compagnie Johnny Moom, qui sont avec des propos quand même underground et puis un petit peu rentre dedans, ils ont quand même un espace d'expression où ils peuvent un minimum s'exprimer, puisqu'ils font des choses aussi bien dans la rue que dans des salles un peu plus grandes qu'un squat. Autre que squat, la formule est un petit peu différente quand même.
Oui, non, quand tu te retrouves dans la rue, t'es pas dans. Moi, je dis pas squat pour squat. Tu peux te retrouver dans une grange en Auvergne, t'es pas dans un squat, mais t'es encore dans une logique alternative. Voilà, moi, j'ai pas le sentiment que. Mais peut-être c'est moi qui me débrouille mal. Peut-être que des gens font des choses réellement radicales en réussissant à jouer dans des théâtres subventionnés. Moi, c'est pas l'expérience du tout que j'en ai. Je veux dire qu'en 30 ans de. Enfin, en 30 ans. Oui, en 30 ans à nous deux, entre Coste et moi, on a dû jouer. Allez, si on a joué 10 fois dans des salles subventionnées, c'est le bout du monde. Ouais. C'est tout. C'est juste la réalité. Si on nous invite 10 fois dans des vraies émissions de télé ou de radio, moi, je suis désolé. Ce que je fais aujourd'hui, ça existe. Ça a une importance. Ça devrait trouver sa place. Moi, je suis très content que Benabar ait sa place. J'ai rien contre lui. Je serais content même que la Star Academy, si les gens ont envie d'être débiles, ou que Booba existe, je m'en fous. Juste, j'aimerais bien qu'il y ait un autre espace pour nous. Or, tu prends les années justement qu'on a connues, les années 80, t'avais les enfants du rock à la télé. C'était normal d'inviter Gogol Premier, il y était tout le temps. Aujourd'hui, il y a un peu TADI, mais tu retires TADI, il n'y a rien. Il n'y a pas un média qui oserait faire passer un type comme Coste ou moi sur un média dominant.
Sur un média dominant, voilà. Bien comme tu dis. Mais c'est pas aussi aux médias alternatifs d'un peu plus s'imposer et pouvoir se défendre.
Ah, mais ça, moi, alors ça.
Par le biais d'artistes comme toi, mais par le biais aussi de même, enfin du
mais,
réseau.
Mais c'est mon grand rêve, quoi. Sauf que moi, plus je vieillis, plus je suis désespéré en tout. Ça ne veut pas dire que je suis triste, hein. Je suis désespéré, j'ai plus d'espoir. Moi, j'ai créé il y a 10 ans le Printemps Bizarre. J'avais cette idée-là, qu'ensemble, on se fédérant, que les alternatives. La seule réalité qui n'est pas politiquement correcte, c'est que 99% des gens qui sont dans le milieu alternatif sont des bons à rien feignants. Ça, c'est juste la réalité. Je le regrette du plus profond port de ma peau, parce que moi, j'ai envie, justement, j'aurais envie que des tas de gens qui sont pur droit dans la tête, qui sont une vraie dimension alternative, arrivent à construire des vrais systèmes aussi forts que les autres. Parce que moi, je pars du principe qu'un type comme moi, il est plus imaginatif, il est plus intelligent, il est plus bosseur que n'importe qui à TF1. Donc si il y en avait 200 comme moi, je pense que 200 comme moi, ils ne font pas tous la même chose. Un qui fait ce que je fais, et un qui organiserait la salle, un qui ferait de la presse, un qui ferait les choses aussi sérieusement que moi, je pense qu'on les enculerait. La réalité, c'est que dire « je passe dans une radio alternative, je sors du ghetto », c'est pas vrai, je m'y enfonce encore plus. Voilà, je m'y enfonce encore plus. Combien de personnes nous écoutent là? C'est ça la réalité.
Bah, peut-être les 199 qui.
Oui, mais on n'en sort pas, je veux dire.
Sur lesquels tu viens de cracher.
Les 199, si tu veux. Moi, j'ai longtemps pensé, ça c'est un autre truc, moi j'ai longtemps pensé que mon travail intéressait beaucoup de monde et qu'il y avait un problème structurel qui empêchait de toucher les gens. Aujourd'hui, je ne crois plus ça quand je dis que je suis désespéré. Aujourd'hui, je pense que mon travail n'intéresse pas. 1 pour 1000 des gens, il y a 60 millions de personnes gens en France, 1 pour 1000
ils sont à peine 1 pour 1000 et pourtant
non, ils sont pas, oui, mais ils sont même pas 1 pour 1000 voilà. Ils sont pas 1 pour 1000 une fois qu'on va avoir fait le tour des 1000 1000 personnes. Regarde, prends l'exemple de Stupeflip, de Sfinkels ou Stupeflip, les deux ils ont été produits dans des majors, il y a eu de la thune, il y a eu de la promo, ils vendent que dalle et pourtant Dieu sait que par rapport à moi c'est beaucoup plus facile d'accès, hein. Sfinkels j'adore, même, je suis fan, mais ça parle de bibine, donc ça parle aux alcoolos débiles, ok, même ça, ça n'arrive pas à passer la barre, voilà.
Il y a un blocus évidemment, de toute façon, oui. On pourrait dire il y a un méchant système derrière.
Non, mais justement, il y a un méchant. Moi, cette phrase-là, elle peut être mal comprise. J'ai écrit il n'y a pas de méchant système, il n'y a qu'une somme d'individuels lâchetés. Ça veut dire pas qu'il y a une réalité qui ressemble à un mauvais méchant système. Ça veut dire que cette réalité n'est pas réductible à un grand méchant, à Nicolas Sarkozy qui donnerait des ordres. Ça, c'est faux. C'est des suites de gens. Quand Tadi m'invite sur Europe 1, il passe une chanson dans laquelle je dis que je vais repeindre un drapeau bleu-blanc-rouge avec un drapeau noir avec une croix gammée. Ça passe, il y a zéro problème. Donc il suffit qu'un journaliste dans un média aussi important qu'Europe 1 à 3h de l'après-midi dise je le fais passer. Je suis passé chez Tadi dans son émission de télé, ça a été dans le zapping, tout ça, ça a fait un petit buzz, le monde s'est pas arrêté, il a pas été viré, il y a aucun problème. Et j'ai pu dire votez monde de chiens pour que notre existence ressemble à la vôtre, à 20 cm de la gueule d'un ministre. J'ai pu le dire, le monde s'est pas arrêté. Donc c'est bien un problème de lâcheté et de conformisme et qui est propre à notre époque, c'est-à-dire que l'ère du temps, ça n'a pas été comme ça dans les années 20, j'imagine, dans les années 70, tout ça, l'ère du temps, la déviance ou l'excentricité n'est pas une valeur positive. Aujourd'hui, la déviance ou l'excentricité, il faut s'en méfier, c'est le conformisme qui est normal, et tout ce qui sort du mainstream est bizarre et pas une valeur positive. La majorité des gens me voient looker, disent pas « Oh, c'est cool, il est rigolo !» Non, ils font... Et c'est même pas vrai d'ailleurs, parce que la majorité des gens dans la rue disent « C'est cool, c'est rigolo !» Mais la majorité des gens dans les médias font... Oui, enfin, pour qui il se prend, pourquoi il se met comme ça, est-ce qu'on a vraiment besoin de dire les choses comme ça? C'est ça le problème, c'est que ça, c'est l'ère du temps. C'est juste l'ère du temps. Et personne ne leur impose. Nicolas Sarkozy, il connaît même pas mon nom, il me censure pas, je suis pas un parano, je suis pas un fou. C'est juste qu'aujourd'hui, les gens, réellement, ils écoutent Didier Super et ils trouvent ça trop subversif, quoi. Voilà. C'est terrible, alors que Didier Super, c'est prout-prout. Je veux dire, c'est bien, c'est rigolo, mais ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, ça n'a... Et en tout cas, ça serait bien que ça existe, mais que ça soit au milieu du champ. Lui aussi,
ouais,
il est mort.
Oui, quand même. Ouais. Oui, on va illustrer ça des propos musicaux, ou en tout cas mis sur CD de Tristan. Fab, tu sais ce qu'on passe?
J'en ai aucune idée, je ne sais pas. C'est
D'accord.
D'accord. Ah, c'était la reprise. Mais en fait, c'était le morceau que je voulais passer avant. C'était la reprise quand tu avais fait ton siècle de chansons hardcore.
C'est vrai, on a un peu dit que c'est.
Voilà, on est un petit peu parti là. C'était justement la reprise des Vampasses, parce que ça tombait bien. Ça tombait bien, donc c'était le pas d'argent sur mon dos des Vampasses.
J'aime bien me battre avec les nuages, même si je gagne rarement. Mais quand ça marche, je suis si heureux. Pas d'argent dans mon dos. Si j'étais peintre, je tirais rien, mais ça ne me gênerait pas. Ma langue serait un petit pinceau. Pas d'argent dans mon dos. J'aime bien chanter de plus en plus. Des choses que je comprends. C'est peut-être comme ça que je serai heureux. Sans argent dans mon dos. Car si j'ai la force de faire les choses auxquelles je crois vraiment, alors même les étoiles à mes côtés se battront jusqu'au bout. Mais si je suis lâche et paresseux, j'aurais beau crier m'agiter. Si je suis lâche et paresseux, personne ne pourra rien pour moi. Le petit Marcel me dit, t'inquiète, quoi faire pour être heureux? Je lui réponds, à mon avis, pas d'argent dans ton dos.
Qu'était-ce donc? Oui, c'est ce qu'on écoute.
Le tout premier morceau, donc, c'était extrait de la, comment dire, la performance, le show, le siècle de chansons françaises. Donc, ça faisait partie des spectacles que tu avais fait. Donc, entre deux gros spectacles, hein, c'est ça?
C'était ouais, entre un bouquin et un spectacle.
Voilà, entre un bouquin et un spectacle. Donc, c'était tout un spectacle de reprise de chansons françaises et on a écouté la reprise de Vent passe, pas d'argent sur mon dos.
Voilà, ça allait avec la suite de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pour moi la chanson française, ce qu'il y a là-dedans, ça peut être effectivement Jacques Brel ou Léo Ferré, mais pour moi les Berrues ou les Vampas, c'est de la chanson française, et j'ai pris aussi des trucs de Hoy ou j'ai pris du Sfinkels, tout ça pour moi c'est ça la chanson française. C'est dommage que la boîte chanson française soit devenue la rubrique de Télérama, choses qui sont juste la salle variette, quoi. Le renouveau de la chanson française, c'est une imposture énorme, c'est la salle variette qui a changé de nom. Pendant que la chanson française, on la met dans la boîte rock, rap, underground, ce qu'on veut. Bon.
Donc dans le déroulement carrière, j'aime pas ce mot-là, mais dans le déroulement
de la vie de ma merveilleuse carrière qui est une réussite. Oui. Maman, si tu écoutes, coupe le poste.
Voilà.
Ne pleure pas, maman. Maman, je t'aime.
On parlait là des spectacles. Alors, le tout premier de ce que j'ai, c'est Suce-moi la bite tour. Alors,
ouais.
Oui. Alors, vas-y. Rapidement,
c'était un truc qui avait commencé avec des musiciens, qui commençait en groupe rock, et puis comme pour des raisons que j'expliquais tout à l'heure. Et puis pour des raisons de gestion d'humain, tout ça, ça s'est assez vite arrêté. Hein, ça s'est arrêté dans une date à la Fouillouse, qui est quelque part vers Saint-Etienne, dans une salle rock. Et genre, j'étais en train de discuter autour d'un morceau de saucisson avec le patron, c'était bien passé, c'était super sympa. Et il y a un musicien qui descend et qui fait Vaquette, faut tout de suite que tu montes. Il s'était engueulé entre les musiciens, il fallait que je fasse l'arbitre. Et le type, il me fait mais je fais attends, je suis en train de discuter, tu vois, je remonte après. De toute façon, ça n'est pas des conditions professionnelles, je ne travaillerai pas comme ça. Mais je lui fais c'est bien, tu ne travailleras plus jamais comme ça. J'en ai déduit les circonstances que c'était de façon ingérable de travailler. Soit tu travailles avec des mecs, regarde Blair, je prends un exemple, je suis digressif mais je suis désolé, c'est tout. Blair qui fait ma première partie de ce spectacle, il va jouer sur les 5 jours, il va jouer seulement 2 jours avec tous ses musiciens parce que les autres ils sont intermittents, ok, donc il y a des jours où ils ont de vraies dates payées, donc ils viennent pas jouer avec Blair. Ou alors tu as des mecs qui sont des groupes de copains de machin etc qui sont pas très bons et tu fais des choses médiocres. C'est quoi la solution de jouer avec plein de gens? Moi j'ai pas encore trouvé, donc je me suis dit je vais faire un spectacle tout seul. Mais après je me suis dit ok, si je fais mon spectacle de punk rock tout seul alors que je sais pas jouer de guitare, ça va se voir qu'il y a pas de batterie, que je sais pas jouer de guitare, donc ça va être ridicule. Donc je me suis dit faut que je remplace ça par autre chose, et puis j'ai remplacé par du délire, des petits jouets, des conneries, des blagues, et puis des choses de très 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 mauvais goût, mais ça je les avais déjà avant. Et c'est devenu une sorte de machin de café-théâtre musical radical, mais qui pouvait pas passer en café-théâtre parce que c'était trop radical déjà, quoi. Le problème fondamental que je subis en plus d'être trop radical par rapport à une époque qui n'en veut pas, c'est que moi je suis inclassable dans aucune boîte. Donc si tu veux, tu fais du reggae, même mauvais, t'as un festival de reggae, tu fais du punk, t'as des salles de punk, tu fais n'importe quoi, il y a des mecs bourrés qui sont prêts à écouter ça, c'est très bien, ok. Tu fais du café-théâtre débile, tu as des café-théâtres débiles, ok. Quand t'es inclassable, moi les théâtres veulent pas de moi, je fais pas du théâtre. Les salles de concert veulent pas de moi. J'imagine que là je viens de sortir un album de hip-hop, je pense que j'enfonce beaucoup de gens qui font dans hip-hop en termes de phrasé et d'instru, mais que les gens du hip-hop vont faire comme ils font avec les Sfinkels d'ailleurs. Hein. C'est pas du hip-hop, il fait pas partie, il fait pas yo, il a pas de BM, il a pas de tasse à poil, et il fait pas ouais, j'en cul la société, pas cool, yo, tu vois, respect. Moi je fais pas ça, bon, parce que je suis pas débile. Donc je vais me retrouver à nouveau dans aucune boîte. Donc les festivals de hip-hop voudront pas de moi, les festivals de rock voudront pas de moi, les festivals de théâtre voudront pas de moi. Et c'est ça hein, aussi notre problème, c'est quand tu essayes d'être singulier, un artiste, c'est quelqu'un qui est singulier. Voilà, c'est quelqu'un qui va au bout de son monde, et s'il va vraiment au bout de sa sincérité et de son monde, comme sa sincérité est unique comme chaque être humain, ce qu'il fait ne peut pas ressembler aux autres. Ceux qui font un truc qui ressemble aux autres, c'est qu'ils copient, se projettent dans la projection du fantasme d'être un artiste. C'est-à-dire, ils disent, moi, j'adore, par exemple, je sais pas qui tu veux, j'adore les Vampas, alors je vais monter sur scène torse nu, je vais sauter partout, et je suis un artiste parce que je m'incarne dans la projection que j'ai. Mais tu es pas un artiste, tu parles pas de toi. Tu parles d'un type fantastique qui dit Vampas, qui a trouvé son unicité à lui, qui est fantastique, mais tu parles pas de toi, un artiste, celui qui va au bout de son monde. Donc au bout, à la fin, il est singulier. Voilà. Donc on avait digressé, donc j'ai fait ce spectacle sur Babitour, qui était un truc genre rigolo, café théâtre avec des jouets. Je crois que j'avais répondu en fait.
Voilà. Non mais le retour que t'en avais à cette époque-là, là, de ce truc un peu poète-poète qui visiblement ne te plaît pas du tout.
Non, mais, si, moi je renie pas du tout mon chemin.
le reçu que tu as vis-à-vis de, du public. Parce qu'en fait, bon, il y a eu un deuxième donc, spectacle, on va dire, je veux que je ne me plante pas dans les noms, parce que la dernière fois, je me suis vautré entre le nom.
Tu étais ridicule, il faut le dire.
Oui, j'étais totalement ridicule entre le nom du bouquin et le nom du spectacle.
Ça commence les deux par jeu. Hein.
Voilà, c'est, ouais. Bah oui, mais c'est que du jeu, de toute façon. Il y en a, c'est je gagne toujours à la fin, l'autre, je veux être grand et beau. Ouais. Franchement, c'est quand même, on est dans la même thématique un peu nietzschéenne sur le bord, hein, là, quand même.
Et celui-là, il s'appelle
Crever
tous sauf moi, donc.
C'est crever tous sauf moi, voilà, le dernier c'est crever tous.
C'est je crever tous. Jeudi crever tous.
Voilà.
Premier massacre.
Voilà. Parce qu'il y a les autres à venir. On va pas y passer, de toute façon, il nous enterrera tous, puisque là, c'est prévu au 10e massacre en 2050, c'est ça ?
69, je crois, j'ai
69, à 2069.
C'est une belle date, 69.
C'est une très belle date, oui, mais il faut être deux, là. Hein. Il faudra donc en rester un au moins, quoi. Et donc, là, le deuxième spectacle, donc je vais être grand et beau, dedans, il y avait ce mix des deux, quoi. Quand même encore, c'est-à-dire il y avait les interludes relatiques, ouais, qui venaient, faire la soupape de sécurité un peu entre, ouais. Non, parce que franchement, c'est vrai, tu te fais monter une pression quand même, hein, à l'intérieur,
non, mais...
du micro hop,
ça marche
à l'intérieur, voilà, à l'intérieur du spectacle, donc, tout au long du spectacle, hein, tout est bien calibré, la tension monte au moment où tu sors ton flingue et que hein, c'est quand même tu peux pas faire ça si la tension y est pas dans la salle, mais il y a la soupape de sécurité avec les interludes relatiques, ouais, qui visiblement, interludes relatiques composaient l'essentiel de ton spectacle, du Suce-moi la bite tour.
C'est exactement ça. Mais c'est pour ça que moi, je renie pas du tout Suce-moi la bite tour, j'ai bien aimé, la partie rigolote de moi, je la renie pas. Le jour où elle existera plus, il faudra que je m'inquiète, parce que je deviendrai Philippe Val, un mec vraiment chiant, donc je fais attention à garder du rigolo. Après, il s'est juste passé qu'après quelques années en Suce-moi la bite tour, j'ai fait ce constat qui me semble juste encore aujourd'hui, que l'humour est un planquage. C'est-à-dire qu'au bout d'un... L'humour, c'est une façon de dire, il y en a ici qui le pratiquent, je pense qu'ils pourraient le dire honnêtement, c'est une façon de dire non, je le pense pas en vrai, je déconne. Mmh, en tout cas, je le vivais comme ça. Et à un moment, j'ai fait non, il y a des choses que je pense vraiment, donc je vais pas les planquer. Après, c'est très bien l'humour aussi, parce que c'est une élégance de ne pas s'apitoyer. Donc, faut mettre de l'humour. Et donc, je suis arrivé dans ce spectacle à me dire, je vais faire les deux. Il y a des moments où je vais dire des choses sérieusement parce que j'ai à les dire, et puis des moments où je vais faire effectivement, attends, je déconne, et je déconne, je déconne pas, je déconne, je déconne pas. Et ça m'amuse aussi, c'est la naissance de mon travail, c'est-à-dire, il est là, non, il est pas là. Et parce que moi, je suis pas là pour semer des certitudes, je suis là pour semer des doutes. Donc, c'était le sens aussi que ça voulait dire.
Juste entre parenthèses, l'humour est enfant de nos haines qui n'ont que trop connu vos lois.
Oui, voilà. Donc c'était pour caser une citation, ouais, de
Jacques Prévert. Et ouais, Blanc. Non, mais réfléchis pas là-dessus, continue.
Tu restes dans la thématique de l'humour.
Continue.
Non, mais disons que l'humour, au moins, avait cette capacité, d'une part, de faire retomber un petit peu la pression, et donc, à mon avis, c'était comme ça que je le ressentais au cours du spectacle, hein, de repartir donc vers l'avant, c'est-à-dire de pouvoir se reconcentrer sur la suite, etc. C'est pas le cas, par exemple, dans ton Crever tous, là. Hein,
c'est le cas sur scène. Hein. Sur scène, il y a deux interludes drôlatiques, il y en a plus que deux.
Il y en a plus que deux.
Et le spectacle est deux fois plus long, donc proportionnellement, il y en a quand même beaucoup moins. Mais il en reste deux, mais
attends, sur deux heures,
bien choisi.
Deux heures, deux interludes dramatiques, waouh!
Ah oui, non, le reste du temps, et c'est. Voilà. C'est le dernier spectacle est encore plus. Ce déjà qui avait peur à cause du précédent qui était lourd, le dernier spectacle est encore plus lourd, est encore plus dense, est encore plus prise de tête.
Mais voilà. Tu le cherches aussi quand même, arrête.
Non, non, moi je vais te dire, je suis vraiment serein là-dessus. Comme je te disais tout à l'heure, pour moi, un artiste, c'est celui qui cherche sa singularité et il n'a pas raison ou il n'a pas tort. Moi, je m'en fous de dire que Sade, c'est mal qu'il aimait violer des petites filles. La réalité, c'est qu'il nous parle de la chose qui est la plus profonde en lui et il va au bout de ça. Et nous, quand on le lit, il parle d'une part d'humaine qui nous touche. C'est ça la différence entre Sade et un vrai artiste, donc, et Benabar. C'est que Benabar, il touche tout le monde parce qu'il parle de rien. Il parle d'une part très superficielle de l'âme de tout le monde, de tes problèmes, de tes gosses, des trucs de merde dont tout le monde se fout. Et un artiste, il est là pour aller chercher tout au fond de lui sa singularité et qui va être, moi je prétends pas ressembler aux autres, mais comme personne. Mais peut-être que quelqu'un va faire, ah tiens, cette part mégalo, je l'ai au fond de moi, cette part intello, je l'ai au fond de moi. Et je vais lui en parler sérieusement. Et moi, au fond de moi, ma singularité à moi, c'est d'être un type dans la vie quotidienne, très très intello. Intello, ça ne veut pas dire, j'ai lu plein de livres et tout ça. Je veux dire de percevoir les choses avant tout par la rationalité plutôt que par la sensibilité. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de sensibilité, mais je les perçois de façon très... Tout dans ma tête et tout le temps avec des carrés rangés. Bon, c'est une formation de... Moi, je suis normalien et physicien. À la base, ça m'a traumatisé, peut-être. En tout cas, je suis celui-là. Et moi, ce que je reproche aussi beaucoup à notre époque, c'est la vanité et la vacuité. Quand j'écoute Benabar, effectivement, il me donne deux idées superficielles en indice de 40 minutes. Moi, je me dis que face à ça, une forme de modestement de résistance ou de lutte ou de dire je suis pas d'accord avec ça, c'est peut-être d'aller dans l'excès inverse de la surdensité. Mais je crois que cette surdensité est saine. De toute façon, et après j'arrête, je te promets, de toute façon, l'intégrité pour moi, ça je l'ai toujours dit et je tente de m'y tenir, c'est si moi je lisais mon livre, un livre que j'ai écrit, est-ce que moi je serais enthousiaste? Si moi je voyais mon spectacle, est-ce que moi je serais enthousiaste? Le dernier spectacle qu'on a fait, si je le voyais dans la salle, je serais fou. Voilà, je serais super enthousiaste parce que c'est complètement barjo, ça ressemble vraiment à personne, ça a une putain de rage et une putain d'esprit revendicatif tout en disant des idées je pense assez intéressantes et subversives, et en plus à des moments ça se permet d'avoir l'élégance d'être drôle. Moi c'est juste ça que je peux faire, ça plaît pas à des gens, tant pis, ça plaît à des gens, c'est génial. Moi je suis passé chez Thalie lundi dernier dans l'émission de télé là, les gens qui aiment mon travail, j'ai jamais reçu autant d'enthousiasme, j'étais d'une fierté parce que je pouvais que les décevoir, les gens qui étaient fans. Ils ont vu ça, ils ont fait waouh waouh waouh. Il y en a un qui m'a envoyé depuis les Sex Pistols qu'on tout cassé dans le studio du DMI, j'avais jamais pris un tel pied, et il ajoute derrière, en plus toi c'était plus classe parce que ça avait du sens et c'était intelligent. Ben tu vois, je te dis pas que je suis très heureux d'être dans la galère et dans la merde, tout ça, mais que ça vaut le coup quand même quand tu reçois ça. C'est la classe.
Tu parles de surdensité, est-ce que c'est accessible aux gens, ce genre de spectacle? Parce que si tu parles de propos artistiques, de quelqu'un qui s'exprime, tu dis l'artiste doit aller juste au bout, quoi, de ces trucs. Est-ce qu'il n'a pas aussi des efforts à faire de communication, si c'est trop opaque, si c'est trop art contemporain, entre guillemets?
Il a un effort, si ta question, je suis d'accord, regarder son petit nombril et faire son truc, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire vraiment le contraire. Moi je dis que pour toucher les autres, il faut être sincère par rapport à soi. Il y a la pire des saloperies, c'est tiens non là ça va être trop compliqué pour eux, je méprise pas le public, alors je vais être plus facile. Mais ça c'est mépriser le public, c'est penser qu'ils sont si cons. Moi je pense qu'ils sont si intelligents.
Il y a quand même une différence non, entre mépriser le public et abaisser son spectacle et vulgariser ça, voilà. C'est qu'on veut faire, parce que tout le monde n'est pas normalien.
Non,
tout le monde comprend pas.
Parce que quand même à l'intérieur, soyons honnêtes, à l'intérieur de ton truc, tu causes quand même d'entropie, tu nous causes quand même de machin.
Mais ça c'est pour rire ça.
Ouais, oui, mais okay.
Ça c'est l'interlude drôlatique, l'entropie.
Voilà, exactement. Ça tu verras comment c'est traité sur scène. Bon, tu peux pas le prendre au premier degré. Évidemment, c'était. Mais de toute façon, c'est quoi cette espèce de snobisme de dire moi j'ai envie, je viens voir un truc à la première écoute, je veux tout comprendre. Bah, écoutez du Benabar, on comprend tout.
Non mais voilà. pas tout.
Moi les gens que j'ai aimés, j'ai pas tout compris à la première écoute.
Au moins avoir envie de comprendre.
Mais ça c'est le problème des gens. Ça si tu veux, moi pour répondre à ta question précisément, moi je pense que mon travail est aristocratique. Mais c'est pas une aristocratie de l'argent, c'est pas une aristocratie de la culture, je rassure les gens. C'est une aristocratie juste de la volonté. Le mec qui a envie d'être passif, le cul sur sa chaise et faire moi j'ai envie qu'on me donne ce que je veux, je viens pour boire des bières parce que je suis punk, ou je viens parce que je suis un télo à la con, je suis abonné à Télérama, je viens voir du Benabar et j'ai envie qu'on me flatte mon orgueil en me disant que je suis moins con que mes élèves. Ces gens-là, allez vous faire foutre. Enfin, allez vous vivre d'ailleurs, je suis même pas allé vous faire foutre, j'ai rien contre vous. Mon travail s'adresse à des gens qui ont envie de découvrir autre chose, qui ont une curiosité, toutes ces choses que je trouve belles. Moi en tant que spectateur, quand je vois un film de Lars von Trier, il y a des gens, mais on comprend pas bien, il n'y a pas de vrai décor dans notre ville, il n'y a pas de vrai décor. Si toi t'as envie qu'on te fasse le film comme toi t'as envie de faire, tu le fais toi-même, ou alors tu vas voir une merde américaine, tu vas voir Matrix.
Et l'attitude intelligente serait pas plutôt d'essayer de faire comprendre au mec qui comprend pas justement qu'il y a un vrai décor, qu'il n'y a pas de vrai décor, que c'en est un vraiment de vrai décor? C'est-à-dire que les gens sont peut-être lobotomisés parce que la publicité les lobotomise.
Mais ça, c'est pas le problème de Lars von Trier, c'est le problème à la limite de toi qui va parler du truc de Lars von Trier. Moi qu'on donne des clés pour que les gens comprennent mon travail, j'en serais ravi, et je suis là pour ça, je le fais. Mais moi je vais m'arrêter et faire bon, alors je vais vous expliquer, bien là certains ont peut-être été surpris parce que je venais de faire du rap et maintenant j'explique des trucs, donc c'est un peu le principe du spectacle, parce que bon, il faut ça va être ridicule, ça va tomber dans le ridicule, ou alors je le traite au second degré,
je sais pas, faudrait voir si la raison de Trier c'est pas non plus prêté au jeu d'expliquer ce qu'il a toutes ces choses-là. Je pense qu'il y a quand même un jeu d'explication derrière et du public auquel il va s'adresser. On sait très bien que Lars von Trier va s'adresser à un public de Télérama d'abord, qui va faire l'œuvre d'abord d'explication et qui va avoir un premier paravent derrière. Toi, je ne sais pas si tu vas avoir des gens qui vont arriver faire l'effort d'abord de comprendre ton spectacle et ensuite après faire œuvre de vulgarisation. Il faut peut-être le prévoir d'abord.
Je suis condamné à l'underground toute ma vie. C'est une minuscule élite qui a de la curiosité.
C'est juste une question que je te pose.
Je crois pas ça.
Enfin, on a envie
moi,
de
sincèrement,
dedans,
je vais te dire le feeling dans lequel je suis. Je suis sorti de chez Thalie lundi soir. J'ai donc fait 5 minutes, une sorte de best-of, un teasing du spectacle. Je suis sorti de ça, j'avais une putain de rage, je comprends pas que ça marche pas. C'est bien, c'est maîtrisé techniquement. Mm-hmm. Et c'est vraiment, ça devrait plaire, pas à tout le monde, mais à une large majorité de gens. C'est bien, c'est intéressant, c'est rigolo, c'est radical, ça fonctionne. J'ai ce sentiment-là. Après, si effectivement, après, la jauge chez Benabar, je descendrai jamais aussi bas.
Mais non,
je
mais veux pas descendre. La question, elle est pas là. En plus, Benabar, il y a de fortes chances pour qu'une grosse partie du public fasse la récession lui-même, quoi. Hein, je veux dire. Ouais, voilà, il n'y a pas que Benabar.
Non, mais je suis de Benabar, mais parce que c'est le premier qui me vient. Mais évidemment, il n'est surtout pas pire que la Jeanne Chéral ou toutes ces merdes-là. Bon.
La chanson française de qualité.
Voilà.
Non, mais c'est pas la question. C'est juste, par exemple, le public que tu as touché chez Tadi, c'est pas le public punk à chien de base, quoi. Faut pas non plus.
Non.
Et donc.
Mais aujourd'hui, mon public. Attends, moi, je commence à le connaître un peu, mon public. Il n'y a pas. D'abord, ça veut rien dire, mon public, c'est comme ça. Mais globalement, c'est vrai que c'est des gens un peu plus âgés que les punk à chien, les jeunes punk à chien. C'est des gens un peu plus éduqué, un peu plus ouvert. C'est des gens qui, à l'œil, vu de l'extérieur, ressemblent plus au public, on va dire, des Inrock qu'un public de punk à chien. Voilà, moi, la première fois que je t'avais vu, donc t'es une des figures du punk, tu portes des baskets. Moi, je trouve ça bien, voilà, t'es pas une espèce de clone. Le pauvre mec qui, donc, le seul intérêt.
Super. Coupez le micro, vous entendez plus rien là.
Non, bon, c'est même pas vrai, il porte des Doc Martens, faut dire ça, pour être politique.
Des drug dogs, voilà, c'est ça.
Bon, faut arrêter ça. Je pense que moi, l'esprit punk, c'est une très belle chose. Si l'esprit punk, ça se réduit à des petits mômes qui ont envie de se défoncer la gueule le samedi soir, comme n'importe quel autre môme qui va en boîte de nuit.
T'as eu des très bons retours de ton émission de Tadi. Ça, j'en doute pas un instant. Mais est-ce que le public que t'as vu, qui t'a vu chez Tadi, c'est celui qui va se déplacer à ton spectacle? Si parce que là il y a quand même du monde, quoi, je veux dire, qui regarde l'émission de Tali.
Je ne suis pas Madame Irma.
T'as de quoi remplir ça. Non, mais jusqu'à présent, tu l'as fait un paquet de fois, la miroite, quand même. Là, tu vas faire la miroite pendant 5 jours.
Ouais.
Donc, le public qu'il y a, est-ce que les deux vont se rencontrer, ton public tadéiesque et le public.
Non, ça fait peur, la miroiterie. C'est un squat, déjà. Ça s'appelle squat avec un S majuscule.
Il n'y a peut-être pas grand-chose. Il y a peut-être juste une porte à forcer, genre un article dans Rock and Folk ou j'en sais rien.
Non, un rock, c'est mieux, un rock.
Bah, les un rock, ouais.
Voilà, on est toujours à l'antenne avec Tristan Eterne Vaquette. On en était où? Je ne sais plus. On va quand même présenter le nouveau spectacle puisque le temps tourne. Et puis, c'est quand même une demi-heure pour présenter ça. C'est trop peu.
C'est trop peu.
C'est trop
et
peu.
Les gens, en même temps, ont toutes les infos sur www.crevetous.com.
Oui, aussi, ouais. Il y a le spectacle là, qui arrive, non, le spectacle vivant, le live à la miroiterie, du 25 au 29, c'est-à-dire mardi 25 là, novembre. La semaine qui arrive.
Du mardi au samedi de la semaine
du
prochaine.
Du mardi au samedi. c'est un choix d'avoir fait si court en représentation. Il n'y a pas beaucoup de représentations là. Ou t'as d'autres obligations de tourner.
Non, c'est
il doit faire ses piges d'intermittent, alors il peut pas faire
voilà, c'est 5 jours. Non, c'est 5 jours, c'est une façon de voir les choses. 5 jours, on peut dire aussi que c'est beaucoup de venir 5 jours aussi, de suite et qu'il y a des risques qu'il y en ait 4 de vide et 1 de plein. Voilà, moi je serais ravi d'avoir chauffé trop peu de jours. Hein. J'espère que ton optimisme me portera chance. Mais je sais pas, ça va sembler être la bonne quantité. Voilà.
Il dure combien de temps le spectacle?
Il dure, on va dire dans les 2 heures, ça dépend si je suis speed ou pas. Oui, c'est dense. Hein.
C'est long.
C'est long, et puis il y a un choix des moments de mise en scène. On s'est dit, ça on le fait, bon, c'est pas possible, mais on s'est dit, on va au bout de cette radicalité-là, quoi, même des trucs pas possibles.
Donc ça veut dire
que par exemple, il y a un moment, on fait 10 minutes et on laisse les gens 10 minutes avec un résumé exhaustif. Enfin, résumé exhaustif, c'est un peu antithétique, mais un passage de toutes les lois pénales françaises, de l'évolution des lois pénales françaises depuis 10 ans, ce qui me semble très intéressant. Ça dure 10 minutes, donc les gens ont toutes les lois pénales qui défilent sur un écran. On s'est dit, c'est anti-scénique de faire ça. Tu quittes la scène, tu laisses les gens tout seuls. Il ne faut pas le faire. Et on s'est fait, c'est radical. Voilà. Donc on a été au bout de notre truc. Il y a des moments aussi où on se marre, il y a des moments aussi où c'est un vrai concert de hip-hop aussi, il y a des moments aussi où c'est.
Pendant 10 minutes, il y a des trucs qui défilent.
Ouais.
Ouais, il faut tout lire.
Ouais.
Non, mais attends, je te coupe là. Parce que tu dis. Tu dis on pour
avec la metteur en scène.
Travailles quand même avec des gens.
Non, avec la metteur en scène. Le spectacle, on l'a monté à deux, tout à fait.
Tu travailles avec des gens.
Oui.
Ou des gens travaillent avec toi.
Il y a plein de gens qui travaillent avec moi. Il y en a, j'en connais même sur ce plateau. C'est à quel point, donc fais attention. Sur ce plateau, sur ce. Oui,
on est vas-y, fais comme si on était à la télé.
Voilà, c'est ça, ouais, dans ce studio.
Ça lui monte à la tête, ça y est. Il fait 2 fois de la télé.
D'accord, donc t'es pas tout seul sur le spectacle.
Non, non.
Sur la scène, tu es seul.
Je suis seul sur la scène, mais on l'a monté effectivement à deux avec Femme finale de la matière, qui a été la dernière en date comédienne de Cost. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. Elle jouait dans le dernier spectacle de Cost. Et on a monté ça à deux. Voilà, à partir l'idée, si tu veux, c'était quand elle a écouté la première fois la chanson de 35 minutes, donc elle a rien compris. Bon. Ah. Et elle a fait. Si tu fais ça sur scène, personne ne va rien comprendre. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on va faire ? Ben on s'est dit, on va expliquer. Donc tel moment, tu vas parler.
Quand même, tu reviens sur tes propos de tout à l'heure.
Non, je ne reviendrai sur rien du tout. Moi, ce que je disais tout à l'heure a été compris comme je fais exprès que les gens ne comprennent pas, surtout pas, j'essaie de faire un spectacle bien, j'essaie que les gens trouvent ça bien. Mais après, si c'est tombé sur un moment de faire « Ah, ça, c'est un peu trop compliqué, un peu trop radical », quand tu commences à faire comme ça, à ce moment-là, tu produis à la fin de la merde. Donc maintenant, moi, je ne fais pas un truc... si les gens, tout à l'heure, je me suis mal exprimé, ont compris que je faisais un truc abscon, un télo avant-garde, prétentieux, qui n'a aucun sens, tout ça, c'est le contraire de ce que j'essaie de faire. J'espère juste faire un truc de maintenant. Maintenant, il y a des gens qui, quand Léo Ferré fait et basta, qui fait 40 minutes, vont dire, mais ça, c'est pas de la chanson, 40 minutes, on n'écoute pas, c'est pas intéressant. Tant pis pour eux. Moi, j'écoute et basta, je comprends pas tout, mais je trouve ça superbe. Bon, voilà. Mon spectacle, je pense qu'on comprend plus que et basta, parce que c'est un truc quand même très politique. On comprend. Mais si les gens veulent la forme qu'ils ont l'habitude d'entendre et qu'ils trouvent Jacques Brel merveilleux, mais Léo Ferré, que c'est pas intéressant, parce que moi, Jacques Brel, c'est un format de 3 minutes avec une vraie histoire. Tant pis pour eux qui s'écoutent Jacques Brel, c'est très bien, je veux dire, tu vois, moi je m'en fous, je fais un travail.
Tu dis ça, mais t'aimerais bien quand même que voilà, ils s'intéressent aussi à.
Bien sûr, évidemment que j'aimerais bien, mais pas en faisant autre chose, pas en faisant autre chose que ce que je fais. Voilà, maintenant j'aimerais beaucoup que les gens s'intéressent, non seulement pour moi, évidemment, je l'avoue, mais aussi pour eux. Je trouve que ce que je fais est suffisamment intéressant et original et singulier et profond et pertinent et en phase avec notre époque, parce que on va peut-être en dire le fond là. On a l'impression que je fais que de l'art contemporain. Je fais quand même un truc qui est un appel à l'insurrection, qui est un truc extrêmement violent. C'est une analyse, on va dire ça, c'est le mot gauche, j'aime pas beaucoup, mais on va dire enfin, violemment libertaire en tout cas.
Anarcho-autonome, donc.
Non plus. Voilà.
C'est pas nous.
Il y a un appel à l'insurrection quand même à la fin, je suis désolé, mais quand même.
C'est vrai. Voilà. Un appel à l'insurrection qui s'incarne dans la Marseillaise. Donc pour les gens qui effectivement sont.
Oui, tout à la fin, ça se termine par la Marseillaise. Alors voilà, ça c'est quand
même. Ça se termine par la Marseillaise.
Et on siffle.
Non, enfin.
On peut pas siffler le public.
C'est un concept quand même, c'est-à-dire. Que tout un pavé sur la conjuration de la peur, donc sur la peur un peu dans la société, qui se termine par la Marseillaise, ça va, fallait oser, hein, alors si, c'est couillu. Mais enfin, c'est pas le couplet classique hein, de la Marseillaise.
Non, c'est pas le couplet classique, parce que je peux te le faire, ce couplet classique, tu vas voir. Je jure que j'ai pas changé, j'ai adapté en hip-hop, mais les mots sont exactement la Marseillaise, et ça dit que veut cette horde d'esclaves, de traîtres et de rois conjurés, pour qui ces ignobles entraves, ces fers des longtemps préparés, pour nous, Français. Mais va pourrir, bâtard, fous-le-toi dans le cul, ton outrage chez nous, que tu oses de rendre à l'antique esclavage par des mains enchaînées, nos fronts sous le joug se ploieraient, de vils despotes deviendraient les maîtres de nos destinées à les trembler tyrans, et vous perfides opprobres de tous les partis tremblés, vos projets parricides vont en faire recevoir leur prix liberté, liberté chérie, donne à tes défenseurs la victoire, que tes ennemis expirent en voient ton triomphe et notre gloire. Ben ça c'est aussi dans la Marseillaise, parce que la France c'est aussi le pays qui a le génie des révolutions.
Le sale bâtard et enculé, j'hésite un peu, mais sinon,
c'est ça, on a bien compris où était le côté hip-hop.
Voilà, rajouter, mais le reste, mis à part ces sales bâtards enculés, le reste est exactement le truc. Et voilà, ça peut être lu comme une déclaration de guerre à Sarkozy, la Marseillaise, ce couplet.
D'accord.
C'est pour ça que certains voulaient qu'on remplace la Marseillaise, enfin le couplet actuel de la Marseillaise par celui-ci, plutôt chanter celui-ci qui est un petit peu plus, on va dire, libertaire, quoi, carrément. Quoi.
De la même façon, d'ailleurs, que dans un siècle et demi de chanson française hardcore, j'avais repris l'International et qui était un couplet pareil que pas le couplet classique de Beu, qui était un couplet super violent, antimilitariste. Bon, voilà. Mais la France, c'est aussi le pays de la Commune, c'est pas que le pays de Sarkozy.
Bien sûr. Oui, heureusement. Enfin, heureusement, quelque part. Donc, le spectacle, on va peut-être un peu le présenter. Il se présente comment ? Enfin, il se décortique un petit peu.
Alors, je veux pas trop virer des surprises, parce qu'il y a quand même beaucoup de surprises. Je répète une fois encore, c'est très spectaculaire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un vrai spectacle. C'est pas un cours chiant juste pour faire un cours chiant ou d'un truc conceptualo. Et si j'ai pu laisser penser ça, je me reprends là-dessus. C'est pas ça. Donc, ça se présente, si tu veux, comme un. C'est censé être un concert de hip-hop, sauf que les gens qui, au bout de 5 minutes, ils ont compris que ça allait être un concert de hip-hop particulièrement bizarre. Et le début est assez. Bon, rentre dans la gueule. Ensuite, je présente le plan du spectacle qui fait à peu près une quarantaine de pages. Donc les gens comprennent d'un coup que ça va être un peu dense, ça les calme. Quand on l'a joué en Suisse, c'était le plus gros fou rire du spectacle. J'arrive avec le plan. Et les gens se marrent, ils se disent c'est pas possible, il va pas le faire, mais je le fais, c'est le vrai plan du spectacle. Ils vont dire, pas de faire tout ça. Et donc après, je pars sur un concert de hip-hop, et puis il y a des moments, je m'arrête et je fais bon, alors je vais vous expliquer ce que j'ai voulu dire là, je vais préciser ça, alors ça m'évoque ça, et j'évoque comment le thème profond du spectacle, c'est comment on est passé en 40 ans d'une société où la liberté avait sa place en France à une société où elle l'a de moins en moins. Et je tente de montrer que cette incarnation du manque de la liberté se fait évidemment dans les lois sécuritaires de Sarkozy, mais ça se fait aussi dans la chasse aux mots ou à l'humour qui fait que Hitler égale SS, la BD de Villemain ne peut plus exister, ou qu'on nous fait tout un pataquès parce que Dieudonné se met deux papillotes, ou que j'ai été arrêté en garde à vue pour une chanson ou tout ça. Ouais. Je dis que c'est aussi la capote, le bois pue, le fume pue et cet hygiénisme partout qui t'empêche de vivre. Je dis aussi que c'est le chômage, parce que le chantage, attention, si tu n'es pas soumis et prudent, tu vas te retrouver au chômage, donc il faut que tu portes un t-shirt, j'aime ma boîte. Que tout ça, ça participe de la même chose, qui est la phrase clé de ce spectacle, c'est une phrase de Sarkozy, qu'il a volée d'ailleurs à un penseur communiste, avec beaucoup d'ironie, comme il fait tout le temps, Sarkozy, et qui dit « L'hégémonie idéologique et culturelle précède la victoire politique. » Aujourd'hui, on n'en est pas là uniquement parce que Sarkozy est au pouvoir, c'est n'importe quoi de dire ça.
Bah, depuis 40 ans, il y a eu Mitterrand aussi.
Voilà, ouais. On en est là parce qu'il y a eu un travail idéologique et culturel qui nous a dit que la prudence et c'était plus important que la déviance, ce qui était une idée pas le cas dans les années 70. C'était un travail idéologique qui nous a dit qu'il fallait avoir peur de tout. Des terroristes, le 11 septembre, gros travail idéologique. Le 11 septembre, on nous fait croire que c'est un événement historique. C'est pas un événement historique, c'est un événement médiatique uniquement. Ça n'a aucune importance le 11 septembre. C'est uniquement ce qu'on en déduit. Attention, les terroristes sont partout, tremblent.
C'est ce qui vient d'arriver la semaine dernière aussi. Les terroristes sont présents sur le sol français.
Bien sûr, exactement. Exactement. Mais tu sais ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire ce traitement de l'information, il y a 30 ans, des mecs qui font sauter des trains parce qu'on est contre les machines et qu'on est contre la société de consommation, ça aurait été des demi-héros il y a 30 ou 40 ans. Les médias dominants n'auraient jamais, ou en tout cas la vox populaire du temps, n'aurait jamais pris ça pour des gens très dangereux. On nous a fait passer pour « Méfiez-vous, les terroristes sont partout, il y a des gens qui font sauter les trains et qui demain vont venir vous égorger. » Et ça, c'est un travail idéologique qui a eu lieu. Et moi, j'essaie d'expliquer comment ce travail idéologique a eu lieu, comment la peur est un instrument de contrôle social, et face à ce conformisme et face à cette prudence, moi, je tente une réhabilitation de l'imprudence et de la déviance. Je dis mot pour mot dans le spectacle, je revendique le droit à la déviance, voilà, et je revendique le droit à l'imprudence. Donc j'explique tout ça, donc il y a une partie entre guillemets cours de philo comme il y avait dans mon précédent spectacle, mais au milieu de hip-hop, et puis après des interludes, et puis après des projections, et puis des conneries, et l'ensemble fait que c'est un spectacle qui est particulier. Ceux qui voudront dire oui, ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas comme ça qu'on fait un spectacle, parce que les autres ne font pas France qu'ils veulent, comme d'habitude, je ne vais pas me répéter là-dessus. Je m'en fous, je pense que c'est un vrai spectacle qui est dense, qui est intéressant, qui porte des idées. Bon, voilà, et qui est radical. Du trash intello, quoi. En fait.
Je reviens sur cette forme musicale que tu appelles hip-hop, là. En quoi le hip-hop il est plus novateur que le punk, que tu aurais pu faire de la musique punk? Je vois pas en quoi le
mais parce que moi quand j'écoute quand j'écoute
ou c'est plus ta forme d'expression.
Il y a deux choses. D'abord, ça m'a permis moi juste en termes d'auteur, le hip-hop me permet d'avoir une latitude fantastique. C'est le problème de format chanson qui participe le punk, c'est que si tu as par exemple 8 pieds à la fin de ta phrase, tu as envie de mettre 12 pieds pour aller au bout de ton idée, tu mets 8 pieds. Avec le hip-hop, tu fais tu mets tous les pieds que tu veux. Ensuite, au bout d'un moment, tu as fini tes 8 vers, faut avoir un refrain. Bon, t'as pas fini ton idée, truc. Le hip-hop, tu t'en fous, tu continues ton raisonnement. Donc, il y avait déjà cette raison-là. Après, il y a un autre truc, c'est que quand moi j'écoute Stupeflip qui fait je faisais des bouts de loop un peu loupés, ça me plaisait, je trouve qu'il y a un nouveau truc là-dedans. Quand les Beastie Boys, c'est super vieux, m'amène des choses. Quand j'écoute Sfinkel, je me dis tiens, il y a un phrasé, il y a un truc qui me plaît. Quand j'écoute les groupes punk d'aujourd'hui, c'est juste, c'est très bien, mais c'est juste qu'on faisait nous il y a 30 ans, quoi. C'est juste ça. Et que nous, il y a 30 ans, jamais on aurait eu l'idée de chanter du folk. Folk, t'es une super musique, une musique revendicatrice. Qui était très bien, mais on voulait juste pas faire la même musique que notre parent. On est la première génération qui va juste jouer la même musique que jouaient ses parents. C'est pathétique. Bon, moi voilà, j'ai le sentiment que ça m'amène plus rien avec le punk, et en plus si tu veux, j'ai le sentiment que le hip-hop me permet aussi qu'on comprenne mieux ce que j'ai à dire, même si c'est très dense et tout. Le bruit du propre punk fait que c'est beaucoup plus couvert, alors que le hip-hop tu peux mettre l'instru derrière et jouer plus sur les mots. Et puis moi j'avais tout bêtement aussi, il y avait tout bêtement une vraie raison, c'est que moi j'avais envie de grandir moi. Le punk, je l'ai déjà fait, un roman j'avais déjà fait, du spectacle météo j'avais déjà fait, j'avais envie de rentrer dans du hip-hop. Il y avait aussi cet autre argument, c'est que je suis pas un chanteur vocal extraordinaire, alors que dans le hip-hop et que j'ai un très bon sens du rythme, donc dans le hip-hop j'avais plus de problème des notes et j'avais le problème des rythmes, ça me permettait de placer des parties phrasées un peu plus sympas, un peu plus étonnantes, qui m'amusaient. Tout ça, ça a été une évidence, quoi. Et je suis content d'avoir cette forme, et je me trouve que mon travail s'incarne bien dans cette forme, voilà.
Et au niveau, enfin non,
Non, c'est juste que la forme hip-hop, comme tu dis, enfin moi je sais pas, ça me fait moins penser à du rap tel que moi je le conçois. Alors maintenant, l'esthétique du rap, moi, ça fait deux. Hein. Mais qui a, tu vois, une sorte de spoken word album avec de la grosse zig derrière, quoi.
Ouais, genre, ouais. De toute façon, c'est ça. Moi, j'ai toujours pareil. J'espère pas faire un truc conforme. Quand je dis hip-hop, c'est pas effectivement la copie de l'album de Booba. On est loin. C'est le mot que tu viens de dire, ça très bien. Bon, tu l'as dit en anglais, j'espère que ça va frimer. Mais
non, mais c'est parce qu'en fait, non, parce que non, typiquement, en France, on n'a pas. C'est parce qu'en France, on n'a pas fait. Mais, ah ben voilà. Mais par exemple, moi, le gars qui a fait, c'est Diallo Biafra qui fait ces fameux. Ah ouais. Voilà. Tu vois, il prend. Mais seulement derrière, il a pas de zik. Hein, mais bon, voilà, il prend le micro et puis il parle, il balance ses trucs et tout. Puis c'est
Léo Ferré, si tu veux.
Ouais, ou Jim Morrison.
Léo Ferré. Le seul truc, ouais, c'est que pas du spoken word. C'est-à-dire qu'il y a quand même un phrasé. Il y a un phrasé propre au hip-hop.
Ce que je veux dire.
Sarko, tu m'aurais fiché tout gosse comme destiné à la place de grève et pourtant dans un section réaliste où les deux nos rêves, ton sens de l'ordre amènera à la France qui n'a pas certainement quelque part nuit, mais mon envie de border un volume de player de la preuve de pays n'est pas fini car tout ce qu'on crée et inventé fait avancer l'humanité, l'on touche en franchissant la ligne de ce qui est ennemi motorisé. Il y a un phrasé, quoi. Ah oui. C'est pas que du parler.
Voilà. Non, mais c'est pour ça.
C'est 2 heures comme ça ton spectacle.
Oui, c'est 2 heures comme ça. C'est insupportable.
Ah oui, totalement.
Voilà. Oui, mais j'avais prévenu.
Non, ce que je voulais dire plus là-dedans, c'est qu'effectivement, dedans, ce qui se rapproche plus du spoken word, c'est que justement, c'est plus parler, donc plutôt que. Hein. Et surtout, le contenu, quoi. Le contenu, il est intellectuellement, je veux dire, logique et rationnel, comme tu le dis à l'intérieur, hein, irrationnel. Alors que, bon, effectivement, on peut se référer à Ferré ou n'importe quoi, mais Ferré, bon, ce pays, il vient pas en te disant il y a ceci, cela, logique, c'est pour ça qu'on t'assassine, etc.
Non, je pense faire un truc unique. Tu vois, voilà. Sincèrement, je pense faire un truc qui déroule un raisonnement structuré sous forme d'un plan avec des choses à dire, un genre de cours de philo avec un phrasé comme ça un peu bizarre et des instrus comme tu l'as dit souvent assez lourds parce que toute la partie sur la peur avec les ils sont lourds et rentrent dans la gueule.
Ils sont étouffants. Disons quand t'as ça sur les oreilles, tu écoutes ça au casque et tu les soignes. C'est
ça. Envie de venir aussi.
Non mais c'est pas.
Tu crois que pour les auditeurs c'est étouffants, c'est un truc qui leur fait peur.
Je sais pas. C'est très.
Mais ceci dit, la miroiterie au mois de décembre, si c'est étouffant, ça peut réchauffer l'atmosphère.
Disons que ça fait appel à pas seulement ça va tout le truc, quoi. Ça risque d'être organique, quoi, comme expérience.
Ouais, mais tout à fait. Mais tu sais, au début, quand on a commencé à monter le spectacle, les 2-3 premières représentations, on s'est un peu planté parce que j'accentuais pas assez le côté hip-hop. Et on avait une espèce de gens qui disaient ok, le côté hip-hop, on comprend rien, on s'emmerde. Mais alors, par contre, les parties parlées, génial. Et après, au bout de 2-3 trucs, on a parlé avec la metteur en scène, un peu avec tout le monde, et les coups d'après, j'en ai rajouté dans l'hip-hop, justement, le côté musical, animal, tout ça. Et d'un coup, ça fonctionnait parce qu'il y a une double énergie, quoi. Il y a l'énergie de la musique, tout ça, où tu rentres dedans, où tu sens, où tu mets en avant la rage, tout ça, etc. Et pouf, tu t'arrêtes, et le mec, il parle. Et là, tu as un autre truc. Et c'est très dynamique, les deux, parce que tu as cette richesse-là, ouais, justement.
Non mais ça s'y prête en tout cas le truc, hein. Ça je dis pas. Mais bon, faut faire fonctionner les neurones pendant 2 heures.
Oui, il y a ça, mais en même temps, c'est pas grave. C'est-à-dire le but du jeu, il y a pas une interro à la fin. Le but du jeu, il n'est pas d'absolument tout comprendre. Je pense que la majorité se comprend. Tu suis le raisonnement, tu vois où ça fait. Après, le type qui va me dire j'ai compris absolument tous les mots, toutes les formes de pensée. C'est n'importe quoi quand je dis merde. Taliban import-export, on vous livre avec nos 4 gros porteurs en 30 minutes de façon de voir la vie, moins de liberté, plus soumission et de peur. Putain, ils sont trop forts, plus on prétend les combattre et plus leurs idées insidieusement gagnent du terrain chez eux, comme chez nous, vous venez par gagner car la peur en les gens sages, pas au sens de sagesse mais d'obéissant, et surtout pas ouvert, curieux, pacifiqué, intelligent. Bon, c'est évident que c'est difficile à comprendre parce que les idées qui sont dedans, le fait que que Ben Laden nous envoie sa façon de voir la vie, mais indirectement, parce que en instillant la peur dans nos sociétés, il fournit au pouvoir qui nous gouverne, donc les moyens de renforcer le contrôle social et donc d'avoir la même vision de la vie que lui, c'est-à-dire moins de liberté, plus soumission, plus de peur. Déjà conceptuellement, c'est un peu compliqué à faire et à ce rythme-là, c'est compliqué. Mais alors, c'est ça la richesse aussi. Derrière, tu te dis putain, je vais acheter l'album, il y a un super livret de 32 pages avec tout le texte.
C'est pour ça qu'il n'est pas mort aussi, Ben Laden. C'est pour ça qu'il n'est pas mort aussi.
C'est possible aussi. De toute façon, Ben Laden, évidemment, je ne dis pas que Ben Laden est créé artificiellement par les services secrets, mais qu'il soit utilisé et qu'il aille dans le sens du pouvoir, c'est juste une évidence. Je dis ça dans le même passage. Je dis, putain, il faut être sacrément con ou aveugle ou endoctriné. Bon, tu vois, je dis doucement. Là.
Oui, pas, c'est ça aussi. Mais le phrasé aussi syncopé rapide pendant le spectacle ou
Mais pendant les parties rap. C'est-à-dire ouais. que, mais, c'est bien d'accord, le spectacle fait 2 heures, ouais. et le morceau il fait 35 minutes, et je le fais intégralement sur scène. Donc ça veut dire que la majorité du temps je parle. La majorité du temps j'explique. La majorité du temps je vais doucement. Il y a des diagrammes au tableau, il y a un PowerPoint, j'explique. Donc les idées elles sont là, quoi. Quand je fais un cours sur la façon dont les mots peuvent être des outils du pouvoir, ça, les mots sont écrits à l'écran, je les développe chacun, je l'explique, on comprend.
D'accord. Ouais, ouais. D'accord. Ça fait moins peur, déjà.
Ouais, mais déjà dans le CD, il y a dans le morceau, il y a déjà des parties qui sont expliquées après, enfin où tu balances et tu fais explication après, notamment ce que tu remenais là sur l'histoire de l'hygiénisme de la société, là où tu dis il faut pas baiser avec les capotes, etc. Enfin justement toi tu prends le contrepartie de ça où tu dis non je suis pas d'accord, il faut baiser avec des capotes, non je suis pas d'accord, faut conduire.
Non.
Attends, et après tu viens et juste après t'expliques et tu dis attendez, je veux pas que ce soit mal compris, j'ai pas dit ça, je veux pas qu'une poufiasse vienne me refiler le vie, etc. etc. Mais tu as toute une partie qui peut être interprétée de la façon dont je viens de le dire, qui n'est pas ça, effectivement.
Non, mais au contraire, quoi tu viens de dire, parce que tu t'es compris, mais tu as été un peu vite, tu as dit, moi j'ai dit, il faut baiser sans capote. Hein.
T'as toi, dit contraire. Toi tu dis ça.
Ouais, voilà.
Toi tu dis ça. Toi tu dis à un moment donné, pas tu dis il faut. Tu dis il y en a marre qu'on nous ordonne de baiser avec capote.
Je dis moi donc, je baisse sans capote.
Dans ton cul, je baisse avec capote. Voilà,
je baisse sans capote. Je baisse sans capote.
Je baisse sans capote. Voilà, on va y arriver. Hein. Non mais il fait les trois. T'as les trois. Ouais. Ta trilogie.
Je bois au volant.
Je bois au volant.
Je baisse sans capote.
Je bois au volant et je sais plus quoi ce que c'est.
Et voilà. Et je bouffe des graisses.
Voilà. Je bouffe de la graisse.
Et je vomis la société de la prudence. Mais après je précise.
Et t'expliques déjà dans ton
je ne suis pas suicidaire, que ça n'a rien à voir avec le suicide. Voilà. C'est justement être responsable. Je crois qu'il n'y a pas de liberté, moi je le dis à un moment dans ce truc-là, il n'y a pas de liberté sans morale et sans responsabilité. Parce que s'il y a de la liberté sans morale et sans responsabilité, ça devient l'anarchie comme l'entend chacun, c'est-à-dire la mafia, quoi. Ça devient le plus gros qui te tape dessus. Je ne dis pas ça pour toi, Pierre le prend pas mal. Arrête de me taper. Arrête. Et que donc, moi, je défends, je dis quelle société... La problématique qui traverse cette chanson et donc ce spectacle, c'est quelle valeur doit constituer le fondement de notre société. Est-ce qu'on veut que ce soit la liberté? Liberté qui exige la morale, l'acceptation du risque naturel à la vie et la responsabilité? Ou est-ce qu'on préfère une société fondée sur la sécurité, ce qui impose la culpabilité, ce qui impose le fantasme morbide d'un risque zéro, et ce qui impose la morale, mais pas dans le sens d'éthique individuelle, dans le sens de faire la morale collectivement aux autres. C'est-à-dire, ne dis pas ça, imposer aux autres. Et ça, c'est un choix fondamental de société. Aujourd'hui, la société a totalement choisi son camp, est totalement une société de la sécurité et de la culpabilité. Moi, je n'en veux pas. Et quand, juste, je rajoute une chose, quand je dis dans la phrase d'Arcozy tout à l'heure, l'hégémonie idéologique et culturelle précède la victoire politique, cette phrase, elle peut se comprendre dans le sens du constat de l'action du travail idéologique culturel qui a amené la droite au pouvoir, mais également comme un défi que je lance moi à l'époque, comme une pierre idéologique et culturelle qui du haut de ma grandeur je pose devant le public en disant aujourd'hui ce travail idéologique et culturel je vais le faire pour que demain peut-être on ait d'autres victoires politiques mais de l'autre bord, parce que ça commence à bien faire. Donc moi je me sens, et pour ceux qui connaissent bien mon travail ça peut paraître très étonnant, je me sens dans ce spectacle dans l'incarnation d'un militant. Je fais un travail militantiste qui essaye d'être moins bête que la plupart des militants, mais qui est quand même un travail de militance.
T'es un putain d'enculé de Taras. Vaquette, bâtard, t'as osé douter de moi? Fils de ta mère la pute, alors comme ça t'avais perdu la foi et moi? La flamme, la grâce et pourquoi pas l'envie? Avec un stylo dans une galère, elle tombe à l'eau. Est-ce que l'ennui t'as cru que j'étais fini? Juste bon acheter aux chiens, mais les chiens je les encule. Journaliste prod ou bègue et ses copains prod bien comme Léon Bois ou même Victor Hugo. Plus je vieillis, plus je suis radical, respire, je suis pas prêt d'être noé. Oui, j'ai de la haine à revendre. Et puis, s'il y a pas de thune à faire, je la refilerai pour rien, tant pis. De quoi? Baltringue, tu m'as même traité de vieux. Putain, j'y crois pas. Tu m'as traité de vieux? T'es vraiment un bouffon, toi. T'as vu ton âge? T'as cru quoi? J'allais me reconvertir comme prof de physique dans une boîte à bac de province? Et comme j'arriverais même pas à me tirer mes élèves, que j'en serais réduit à te chatter sur internet pour essayer de fourrer des vieilles de mon âge? Ou pire, pour me trouver une conne à marier, lui faire deux gosses et lui casser 3 dents? T'as vraiment cru ça de moi? Déjà tu penses que je suis fini? T'as cru que j'allais devenir parjure et résigné en plus? Vaquette, t'es vraiment un putain d'enculé de ta race. Vaquette, enculé putain, enculé, enculé. Vaquette, comment t'as pu me faire ça? Depuis le temps qu'on se connaît, c'est fini, tu crois plus en moi, je gagne toujours à la fin. C'est toi qui l'as écrit. Fous-toi au boulot feignant et réalise cette prophétie, parce que vivre avec toi, et pourtant tu sais que je t'aime, ça fait un moment que je me dis, ça en vaut plus la peine. Y'a des soirs où franchement, tu m'as tellement saoulé que j'ai pensé, putain ce bâtard, j'achète un flag et je vais le fumer. Je déconne, je ferai jamais ça. Mais maintenant mets tes couilles sur la table et passe-moi le micro, sors les bas de graisse, leur le cul, ça va faire mal. Allez, fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir et dis-moi, Dis-moi que Baquette est de retour et que Putain, Putain, il est toujours pas content.
Un extrait, du spectacle.
Oui, en fait c'est l'intro du morceau, donc c'est pas du tout représentatif, le spectacle ressemble pas du tout à ça, le morceau ressemble pas. C'est la petite intro qui fait donc 2 minutes, sur le disque il y a 2 morceaux, il y a une intro de 2 minutes,
ouais.
Voilà, comme ça pour mettre les gens à l'aise, comme ça leur dire n'écoutez pas la suite, et après il y a un vrai morceau qui est le corps du spectacle de 35 minutes, qui est le cours de philosophie entre guillemets dont on parlait tout à l'heure, l'analyse de notre époque du contrôle social par la peur. Donc ça c'est juste un petit règlement de compte entre moi et moi. Ouais. Rapide et speedcore, quoi, voilà.
Donc il y a parallèlement au spectacle un CD qui sort quand même du.
Bien sûr, il y a un CD qui d'abord l'objet est magnifique, il faut le dire. Mais je suis très content de l'objet et ça serait dommage de le télécharger. Je dis ça à tout le monde.
Ouais.
Et ensuite, moi je suis très fier du CD aussi. Moi je suis très fier du spectacle et très fier du CD. C'est deux objets différents, quoi. Dans le CD, tu t'en tapes que 35 minutes et t'as le livret, tu peux tout comprendre.
Ouais.
Dans le spectacle, tu t'en tapes 2 heures. Il y a évidemment tout ce qui fait que le spectacle ça fonctionne, que c'est bien. Je connais mon travail, savent que sur scène, bon, ça va, c'est plutôt pas trop nul. Et puis c'est plus développé. Les deux ont leur vocation, quoi. Voilà.
Ils sont complémentaires.
Les deux sont complémentaires pour moi. Je pense que quand tu sors du spectacle, t'as envie d'avoir l'essence du discours que tu as dans le morceau. Et quand tu sors du morceau, bah, t'as envie de voir comment il peut s'incarner sur scène et avoir ces développements-là, quoi.
D'accord. Bon, on répète le spectacle à la Miroiterie.
À la Miroiterie, c'est 88 rue de Ménilmontant, dans le 20e métro Ménilmontant au Gambetta. Les tarifs, c'est une entrée, comme toujours avec Vaquette, en libre responsabilisation. Alors je précise, ça n'est pas la Manche, c'est un concept super trop fort. C'est 3 euros pour les indigents, 5 euros pour les pauvres, 8 euros pour les moyens pauvres, 12 euros pour les moyens riches et 20 euros ou plus pour les très riches. Voire pour les extrêmement riches, ça peut être une Rolex, un dîner au Phuket
ou un yacht, voilà.
Ouais. Bon, voilà. Et donc évidemment, je ne suis pas flic ni directeur des impôts. Le principe, c'est que chacun prend conscience, parce que j'explique au début qu'un spectacle, ça a un coût et qu'il faut bien que chacun, son utilité sociale soit rétribuée. Et soit il comprend ça, et puis c'est très bien, vu que c'est un spectacle sur la liberté et la responsabilité, il a le sentiment d'avoir fait ce qu'il avait à faire. Soit il carotte en disant qu'il est beaucoup plus malin d'avoir carotté. Il voit le spectacle, il comprend et il a très honte. Soit il voit le spectacle, il ne comprend rien. Et c'est normal qu'il ne paye pas beaucoup, vu qu'il n'avait rien compris après. C'est trop fort comme concept. Je précise que ça commence à 20h30 précise. Alors si c'est pour des gens de théâtre, on dit 20h30 normal. Si c'est pour des punks ou des gens du rock qui ont l'habitude de dire que 20h30 ça veut dire 21h30, je précise, c'est-à-dire que ça commencera réellement peut-être pas à 30 mais à 35, 40 maximum, et qu'il y a une première partie qui serait dommage de rater, qui est Blair et le peuple de gauche, qui est un type qui a vraiment un univers, là encore, tu vois, quand je définis quand on me dit que j'aime rien, Blair, j'aime beaucoup, c'est un univers très singulier, très bizarre, à la fois très drôle mais très profond, dur, où il est sur sa névrose à lui d'être une espèce de merde sociale, d'être nul. Alors il chante des chansons, je suis un déchet, voilà, des choses comme ça, mais qui est profond, quoi. Il a une chanson très belle que j'aime beaucoup, qui est une chanson très courte pour la petite fille au cerveau de yaourt. Bon, voilà, c'est à la fois une forme très traditionnelle, donc c'est de la petite chanson bien chantée, et tous les textes sont à la fois très drôles et très rigolos. Donc 20h30 ne ratez pas le début, ensuite vous avez une petite pause, et puis il y a les 2 heures de Vaquette que vous enquillez, et après, donc ben voilà, vous, comme vous l'avez conseillé il y a 2-3 semaines dans cette émission, vous prenez la bouteille de gin, les Doliprane, et vous rentrez chez vous, vous fracassez.
Voilà, donc à la Miroiterie du 25 au 29.
Oui, c'est de mardi, on n'a peut-être pas dit du mardi, samedi prochain, qu'une semaine à Paris, hein, donc il n'y aura pas d'autres dates à Paris avant, peut-être qu'il y en aura d'autres, mais enfin pas, en tout cas pas avant le printemps, et c'est même pas sûr qu'il y en ait d'autres, donc si vous voulez vraiment aller voir Vaquette, c'est le moment ou jamais, mardi au samedi, 20h30, Miroiterie, 88 rue de Ménilmontant.
Pour les gens de Paris, mais après ça se prolonge.
Après, oui, derrière, c'est vrai qu'on est une radio nationale, donc après, derrière, le week-end d'après, ça se joue à Peraf Prod le vendredi 5 à Bordeaux. Voilà, qui est un collectif radical de Bordeaux.
Ouais.
Bon, ça avait été créé en Suisse il y a 15 jours, toute une tournée en Suisse. Et puis après, voilà, après il y aura Lille, Marseille, Nîmes, Nancy, Clermont.
Il y a quand même une tournée, quoi.
Ouais, voilà. Oh oui, il y a quand même des.
En D'accord. Gros. Donc un site pour avoir.
Crevetous.com.
Crevetous.com.
Voilà. Crevetous.com. www.crevetous.com.
Ouais. Voilà. Le temps tourne, donc on te remercie.
Non, j'ajoute juste éventuellement pour ceux qui se diraient, c'est quoi ce truc trop bizarre, je veux quand même avoir un extrait avant de me déplacer parce que je suis feignant et je ne suis pas aventureux. Ouais. Je suis donc, comme on l'a dit plusieurs fois dans l'émission, passé dans l'émission de Tadei sur France 3 lundi dernier. Donc sur le site de Tadei ou sur Dailymotion, vous tapez la conjuration de la peur, Vaquette, la conjuration de la peur. Vous avez 5 minutes d'extrait du spectacle. Vous verrez, il y a deux passages musicaux, deux passages parlés. C'est très représentatif du spectacle. Le spectacle dure 2 heures, donc ce n'est pas que ça. Mais c'est représentatif. Vous verrez si ça vous plaît plutôt ou si ça vous plaît pas du tout. Et vous verrez que c'est beaucoup moins chiant que ce qu'on a pu vous faire croire dans cette émission.